Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
C'est ma nouvelle musique préférée.
Ah oui?
Oui, j'adore. J'y pense et je me dis ça va vraiment être l'épisode de « Mais qu'est-ce qui leur arrive ?»
Salut, c'est Clément.
Et salut, c'est Louise Petrouchka.
Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous, vous écoutez bien le son d'après, votre podcast préféré. Enfin, bon, on l'espère ici, évidemment. On en est à l'épisode 72. Et comme d'habitude, je suis accompagné de ma meilleure binôme. Je vous présente Louise Petrouchka.
Bonjour, comment ça va?
Écoute, ça va très bien. Et toi?
Bah écoute, ça va, je suis ravie d'être ici aujourd'hui.
Moi aussi, car je vous annonce, je pense que j'arrive avec, bon, vous connaissez maintenant le concept du podcast, on arrive avec 4 morceaux de chacun, tout ça, tout ça. Je pense que j'arrive avec ma sélection peut-être la plus clivante de l'histoire du son d'après.
Aïe.
Donc je suis assez curieux.
Pourtant, il y a déjà eu des trucs clivants, hein, donc j'ai hâte de voir la suite.
Bah ouais, on va voir. Justement, en tout cas, je suis très curieux de voir ta réaction et puis j'espère aussi qu'on aura la réaction de nos auditeurs. Voilà. Les petites recommandations d'usure, vous le savez maintenant. Là, tout d'abord, les 4 morceaux que vous allez entendre aujourd'hui seront bien évidemment dans la playlist que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes de streaming. Maintenant, vous avez l'habitude de Deezer, YouTube, Apple Music, Spotify. Vous savez aussi qu'on va vous citer un certain nombre de noms, d'artistes, d'albums, de producteurs, tout ça, tout ça. Vous pouvez retrouver tout ça bien orthographié dans l'ordre, dans la description de ce podcast. Vous savez aussi qu'on vous recommande de nous écouter sur les applis de podcast, à savoir Apple Podcasts, Castbox, Podcast Addict, tout ça, tout ça. C'est plus, voilà, ça, c'est plus facile pour nous et ça nous offre un meilleur référencement surtout. Si ça vous plaît, bon maintenant, après 72 épisodes, on espère que ça vous plaît quand même toujours un peu. Vous pouvez, vous savez, nous mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et sur Spotify. Et pour finir, vous pouvez nous suivre sur les Instagram, sur Twitter et sur TikTok. Voilà, on essaie magnifique toujours de vous proposer un petit peu de contenu là-dessus. Voilà, j'en ai fini pour les recommandations. Je propose maintenant qu'on parle de musique.
Bien sûr, avec plaisir.
Et c'est toi qui commences, Louise.
Et moi, je voudrais vous parler du premier EP d'une artiste qui m'a beaucoup marquée. Elle s'appelle Emose Kamofu et elle est connue sous le nom de Bloody Civilian. Et parmi les artistes inspirantes que j'écoute, elle se pose là. Alors, c'est une compositrice, musicienne, chanteuse, productrice nigériane qui a grandi dans le nord du pays, dans un environnement, j'allais dire assez, mais très conservateur. Dans les interviews que j'ai lues d'elle, elle raconte le sexisme vécu au quotidien. Ça va du harcèlement de rue à la dépréciation des femmes dans leur milieu de travail, en passant par un manque d'éducation sexuelle flagrant, de type résumé à « ne couchez pas avant le mariage, point ». Voilà. Son nom, Bloody Civilian, est une manière de s'empouvoirer face aux violences militaires subies par les populations nigérianes. Elle explique que le terme Bloody Civilian, qu'on peut traduire par putain de civil, est souvent utilisé par les militaires justement, et que c'est une manière pour elle de se réapproprier ce terme, de dire que oui, elle est une bloody civilian et qu'elle compte bien rester ici et s'exprimer. Et ça vous donne un bref aperçu de la force de caractère qui transparaît à travers cet artiste de 25 ans. Le militantisme, même s'il n'est pas vraiment nommé dans son discours, est bien présent, rien qu'en étant une femme visible qui s'exprime à propos des problématiques quotidiennes qu'elle vit et aussi qui émet des avis sur la situation politique de son pays, ça se pose plutôt pas mal. Voilà, personnellement, moi, c'est le genre de figure artistique qui me donne de l'espoir et l'envie de faire bouger les lignes, et vu l'actualité mondiale en ce moment, je prends toutes les petites lueurs d'espoir et d'inspiration qui existent sur cette planète. Cela dit, tout ce que je viens de vous dire sur Bloody Civilian, ça n'est pas les premières choses que j'ai su d'elle, bien entendu, parce que c'est d'abord sa musique qui m'a touchée et qui m'a donné envie de vous en parler aujourd'hui. Elle a sorti son tout premier EP en juin dernier, et il s'appelle Anger Management, donc gestion de la colère. C'est un nom évocateur. Après ce que je viens de vous raconter sur le caractère qui se dégage de cet artiste, et je vous propose qu'avant de continuer et qu'on en parle un peu plus, on écoute un extrait de ce projet. Le titre s'appelle Mad Apology. Avec le titre Mad Apology. Je me tourne, comme toujours, en premier lieu, vers mon binôme. Qu'est-ce que tu en as pensé, Clément ?
Écoute, j'ai trouvé ça super efficace. Je me suis mis instantanément, en fait, à danser sans même réfléchir.
C'est
mon
vrai.
Corps a été, n'a pas eu d'autre choix que
je
de
confirme.
Remuer. Ça, c'est tout. Voilà, ça, c'est pour le début. Et ensuite, je me suis du coup plongé dans le morceau et j'aime bien les variations qu'elle déploie dans sa manière de chanter.
Ouais.
Notamment là dans les moments où elle part un peu dans les aigus et qui, je trouve, l'amène sur un peu des terrains en plus R&B.
Ouais.
Et d'autant plus, du coup, j'aime bien ce mélange des genres. Donc voilà.
Et tu résumes tout finalement, voilà.
Entre le gars analyse la musique.
Mais oui, mais c'est vrai, moi je trouve que ce titre est particulièrement efficace et je crois d'ailleurs que c'est un des premiers que j'ai entendu de Bloody Civilian et qui m'a fait sauvegarder son EP pour écouter plus tard. Et en fait, c'est. Je suis assez d'accord avec toi, c'est un des sons où elle montre un peu plus, je trouve, ses capacités de chanteuse en tout cas. Mm-hmm. Là, sur ce morceau, il y a vraiment cette voix de tête sur les pré-refrains qui sonne très très R&B et qui n'y a pas forcément sur le reste de l'EP où
okay.
elle est plus dans sa voix naturelle.
Oui,
elle est... quoi.
Ok.
Et du coup, je trouvais que c'était en effet un truc qui était assez intéressant dans ce titre-là. Et bien sûr, c'est un mélange des genres. Donc voilà, il y a le R&B dans la voix, mais il va y avoir des rythmiques qu'on retrouve dans beaucoup de morceaux afrobeats. Puis il y a les petits samples de voix qui peuvent rappeler la baile funk brésilienne. Mmh. Et il y a à un moment donné une grosse basse qui arrive qui est presque trap, quoi. C'est presque une grosse 808. Voilà. Et j'ai pas précisé, si j'ai précisé tout à l'heure, c'est elle qui produit tous ces morceaux.
D'accord.
Productrice, okay. Donc je trouve ça intéressant la manière qu'elle a de ramener en fait toutes les choses qu'elle aime dans sa musique, et c'est ce qu'elle dit en interview, c'est que elle a pas envie de se laisser avoir par être dans un genre précis, et qu'il y a plein de choses qui l'ont inspirée dans sa vie. Son père est musicien amateur, donc elle a écouté beaucoup de musique, de jazz, de musique africaine quand elle était plus petite. Elle a grandi en écoutant du hip-hop, du R&B, de la trap quand elle était plus vieille, et donc du coup tous ces genres musicaux la nourrissent et nourrissent sa musique. Et elle a commencé assez jeune à apprendre la production, enfin elle savait même pas qu'elle produisait à la base, elle avait Audacity, elle commençait à faire des morceaux sur son ordi en s'enregistrant. Et puis au fur et à mesure, elle a fait écouter ça à des gens, et il y a un pote à elle qui lui a dit « Mais alors voici FL Studio et Logic Pro. » C'est ça
voilà,
qu'on utilise
voir,
pour faire de la
musique.
C'est
assez merveilleux.
Voilà. Et du coup, elle a commencé vers 16 ans à vraiment se plonger dans la musique, développer ses compétences en fait de productrice et de musicienne, parce qu'elle joue aussi de la guitare. Et dans cet EP, qui est un EP de 6 titres, en fait, se cachent plein de variations et plein de références que
oui,
je trouve
voilà.
assez chouettes à découvrir. Y a des titres avec des sonorités qui mélangent de la house dans certains aspects et des basses qui viennent clairement de l'amapiano. Par exemple, dans Escapism, qui est le morceau d'ouverture de l'EP.
Mm-hmm.
Et ce que je disais, tu vois, elle utilise les samples de voix pour un ressort rythmique, donc du coup ça fait plutôt funk brésilienne. Donc il y a plein de choses assez intéressantes dans ses prods, et tu te rends compte vraiment de la diversité de tout ce qu'elle écoute. Et elle explique que c'est comme qu'elle a besoin de composer toute seule, parce que elle dit en interview que pour transmettre ses émotions à travers la musique, elle pourrait pas que se contenter de chanter. Que ça me fait rire comme elle dit ça, mais c'est genre moi je veux savoir ce que la basse elle raconte et ce que la ligne de batterie elle raconte, tu vois.
Ouais, je vois l'idée. Voilà.
Et je trouve qu'elle a une manière de faire des refrains qui est très très efficace. Elle double souvent les syllabes d'un mot ou elle répète le même mot, et ça du coup devient très vite un truc de pop où tu sens que tu le retiens hyper vite et que ça te reste dans la tête. Son EP donc s'appelle Anger Management. Et donc, en l'écoutant attentivement et en lisant un peu les paroles pour préparer cette chronique, je me suis rendu compte qu'en effet, chaque titre est une manière pour elle d'évacuer sa colère en musique et avec humour. Pas que humour, hein, d'ailleurs, mais elle y parle de son rapport à la drogue dans Escapism et du poids des attentes familiales et de la religion qui influence ces rapports-là, justement, dans Family Meeting. Dans ce morceau-là, elle conclut... Enfin, c'est assez fort quand même ce qu'elle dit. Donc elle parle de toutes ces attentes-là, du fait qu'il y a des gens qui essaient de la convaincre de se relier à Dieu, etc. Et tout. Et elle finit par dire en fait, je vais partir. je vais prendre mon sac et me casser pour faire ce que je veux. Et je vous jure, un jour, vous serez fiers de moi. Donc je trouve que ça dit beaucoup de choses dans un apparat musical, genre quand t'écoutes sans écouter les paroles, ouais. Tu te dis genre hey, c'est vraiment catchy et super et tout. Bien sûr elle aborde aussi ses amours déçus, notamment voilà dans le titre qu'on a écouté à l'instant où elle dit gentiment au gars qui lui a fait du mal que ça sert à rien de s'excuser, c'est ciao, c'est fini, y a pas besoin. Voilà, donc ma petite présentation de Bloody Civilian. Et pour prolonger l'écoute, je vous conseille bien entendu d'aller écouter son EP Anger Management, spécialement les titres du coup Family Meeting et How to Kill a Man, qui était le premier morceau qu'elle a sorti. Son titre Wake Up sur la BO de Black Panther Wakanda Forever, en featuring avec Rema, qu'elle a produit et sur lequel elle chante. Elle avait encore jamais sorti de single en son nom à ce moment-là. Et elle a la chance d'avoir un manager qui gérait la direction artistique de la BO. Ça aide peut-être un petit peu. Mm-hmm. Et en gros, il lui a fait participer à un camp. Tu sais, c'est un truc où il y a plein de producteurs et d'artistes qui se rejoignent pour produire tous ensemble. Et le morceau qu'elle a produit a été sélectionné pour faire partie du projet et de la bande originale finale. Donc
Pas mal.
C'est plutôt un bel achievement. Et aussi, elle cite beaucoup la chanteuse Asha comme une de ses sources d'inspiration principales. Elle explique que c'est notamment grâce à elle qu'elle s'est mise à faire de la guitare. Et personnellement, Asha, c'est une artiste que j'ai beaucoup écoutée depuis son tout premier album. Donc, je vous conseille d'aller écouter son cinquième disque qui s'appelle 5, mais écrit en chiffres romains, donc un V, qui est très bien. Et spécialement le titre avec Amare qui s'appelle All I Ever Wanted, que j'ai énormément écouté. Voilà.
Eh, pas mal.
C'est tout pour moi.
Super. Très
et
bien.
Et on peut passer au son d'après.
Eh bien moi, aujourd'hui, croyez-le ou pas, mais j'ai décidé de vous parler d'une chanteuse de pop bien connue pour les gens de ma génération, découverte à 15 ans dans Graines de Star. Big up Laurent Boyer.
Voilà.
Protégée de Mylène Farmer à ses débuts, et vous l'avez deviné, je vais vous parler d'Alizée. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler d'elle? Vous allez me dire, eh bien pourquoi pas. Alizée, comme tout le monde, je la découvre en 2000 avec son tube Moi Lolita, qui la fera devenir pendant quelques années une star planétaire, qui la fera tourner même aux quatre coins du monde. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais vraiment à l'époque, que tu aimes ou pas le morceau...
Si vous étiez né ou pas déjà.
Si vous étiez né déjà, mais voilà. À cette époque, que t'aimes ou pas le morceau, c'était vraiment partout.
J'avoue.
Moi, à ce moment-là, j'ai 10 ans, j'ai pas une passion particulière pour le morceau, même si, évidemment, je dois le chantonner à l'époque comme tout le monde, tu vois, parce que c'est trop efficace. C'est plutôt quelque chose que j'identifie comme la musique de ma petite sœur, de la musique de fille. Genre, je mets
des guillemets
à ça. En vrai, pour un garçon, je crois que, franchement, je me serais pas vraiment même permis d'aimer Alizée pour sa musique à l'époque.
Ah ouais, bah moi c'est marrant parce que j'ai plein de copains garçons qui adorent réaliser, mais parce qu'elle était jolie quoi.
Oui, bah c'est ça.
C'était mais vraiment genre bah le critère c'est... physique seulement.
Bah, je pense que si j'étais pareil, hein. Enfin, ouais. Ouais, parce qu'effectivement elle était mignonne, mais tu vois, musicalement, je crois que en tant que garçon, je me serais même pas permis, tu vois, de pouvoir dire c'est bien quoi, ou j'aime.
Ah oui.
Donc je trouve, bon, c'est aussi. C'est
rigolo. Ça dit beaucoup de notre société.
Bah, ouais, bien sûr, et je trouve ça marrant de. Enfin, marrant, de, en tout cas, je trouve ça curieux de le regarder avec un peu de distance comme ça. Mais donc, je vais pas vraiment suivre sa carrière. Je la verrai de temps en temps apparaître sur un plateau télé, mais elle est restée pendant longtemps un souvenir marqueur d'une période de mon enfance. C'est en fait bien plus tard, il y a maintenant 4 ou 5 ans, que je me suis réintéressé à Alizé. À l'époque, Mehdi Maizi, qui a été notre invité ici même,
oui,
animait l'émission La Sauce sur OKLM Radio. Et ce jour-là, il reçoit Jérémy Châtelain. Jérémy Châtelain, ancien candidat de la Star Academy, désormais producteur de musique et ex-conjoint de la chanteuse. Tu le connais un petit peu, en tout cas tu l'as déjà vu,
oui,
toi sur scène.
Croisé, oui.
La discussion est très cool, Jérémy Châtelain, voilà. C'est un super client, un très bon divertisseur. Et dans l'interview, il parle à un moment donné d'un album d'Alizé dont j'avais vraiment jamais entendu parler. Il en vend les mérites, il en parle vraiment comme un grand album de variété française. Et l'album, il le raconte, est produit par Institube, label dans lequel gravitaient les ex-TTC, Tequila Tex, Orgasmic, mais aussi Parawan. Bref, que des noms chatoyants. Forcément, ça me rend curieux et je vais écouter cet album qui s'appelle Une enfant du siècle. Et en vrai, ça me parle grave. Je suis très très agréablement surpris par la proposition. Sauf qu'à l'époque, j'avais réussi à l'écouter uniquement grâce à YouTube. Tu vois, il y avait un lien qui te mettait l'album en entier.
Oui.
Mais voilà, c'était uniquement disponible là. Il se trouve que récemment, j'ai été ravi de découvrir que cet album est désormais disponible sur les plateformes de streaming. C'est pour cela que je le ramène aujourd'hui. Et on va s'écouter un extrait que j'adore. Le morceau s'appelle Eden Eden. Je vais être honnête, je suis pas sûr que tu kiffes, mais on va écouter ça.
Ok.
Centré au cœur d'un éternel été, nous sommes les demoiselles d'Éden, les châtelaines au cœur scellé qui cède au quatorzième été.
Avec le morceau Eden Eden, extrait de son album Une enfant du siècle. Je me tourne évidemment vers Louise parce que j'ai envie d'avoir sa réaction. Qu'en as-tu pensé ?
Eh ben, je m'en fous. Voilà. Mais c'est marrant parce que quand j'écoute ça, vraiment, j'ai Tequila Tex et Etienne For You dans ma tête, où je suis en mode ça m'étonne pas du tout qu'ils écoutent ça et qu'ils soient à donf 8000 sur Alizé. Mais j'avoue que moi, ça ne me. Ça... Je m'en fous en fait.
Parce que mais... moi j'ai pas le Teki et Étienne,
bah c'est l'univers Jérémy Châtelain dans ma tête. D'accord, et ouais, vraiment okay. Teki et Étienne, c'est bah Étienne For You qu'on a reçu ici, dans là. Ce podcast avec Request in Peace. Ouais, c'est deux gros fans de. En fait, c'est deux gros fans de chansons françaises.
Ouais.
Et je comprends. En fait, je vois. Tu vois, genre j'écoute ça, je vois le rapport qu'il peut y avoir avec Mylène Farmer ou avec tu vois genre des trucs vraiment
la continuité,
de
ouais.
voilà de chansons françaises qui sont historiques, tu vois. Après, moi j'ai bah bon, c'est, ça fait 50 fois que je répète ça, mais vraiment j'ai pas été élevée dans la chanson française, donc c'est très difficile pour moi d'avoir un avis. C'est pas que je trouve ça pas bien, c'est juste que je m'en fous en fait quoi. voilà. Et en fait, je me dis, je sais pas si j'étais tombée dessus à une certaine époque, si j'avais écouté, que j'avais été dans mes sentiments, mes machins, j'aurais peut-être pu capter. Mais juste aujourd'hui, c'est pas un truc qui me parle. Voilà.
Okay.
Et peut-être que ça me parlera dans 10 ans, j'en sais rien. Mais...
Non, non,
voilà.
Et puis en vrai, c'est pas obligé de parler. Moi, non, je sais que ça, je le ramène en partie parce que ça m'a fait. C'était, je me souviens très bien qu'à l'époque, j'avais été très agréablement surpris. En fait, c'est de. Bah voilà, t'avais mis une chanteuse dans une case comme ça, et tout d'un coup, tu la redécouvres avec une proposition quand même bien différente de ce pourquoi je l'avais connue à l'époque. Donc c'est ça qui...
Bah, est-ce que c'est tant différent que ça ?
Si, ouais, c'est... En tout cas musicalement, mais ça je vais en parler un peu.
Ok.
Tu vois, c'est comme musicalement, non, ça n'a rien à voir.
D'accord.
Je vais en parler un petit peu.
Moi dans ma tête, c'est vraiment...
Ah ouais ?
Ça change pas de fou, quoi. C'est...
Bah, si tu... Bah, je...
Après, c'est pas aussi marketé. Enfin, tu vois, genre là, j'ai quand même la pochette face à moi et tout. C'est pas aussi marketé enfant star, trop mignonne, regardez, je suis une jolie fille.
Bien sûr.
Ce qui a été la case dans laquelle on l'a mis pendant des années, je pense. Mais bon.
Bah, pour vous expliquer, en tout cas, moi je vais vous expliquer. Enfin, je vais vous dire un petit peu ce que j'aime sur ce morceau. Mais avant, juste, je vous raconte un petit peu l'histoire de cet album en quelques mots. L'idée de cet album, il naît en 2008, alors après que Alizé ait accepté de laisser David Rubato remixer l'un de ses singles qui s'appelle 5060. Elle adore le résultat et alors qu'elle est dans une période où elle cherche une direction pour son prochain album, le quatrième, elle sympathise avec Jean-René Étienne, un peu le boss d'Institube, sur lequel est signé justement David Rubato. De cette rencontre naît un album concept, entièrement écrit par Jean-René Étienne, à l'exception d'un morceau écrit par Rebecca Zlotowski, qui est réalisatrice maintenant fort connue, et sur lequel, du coup, on retrouvera la production Château Marmont, Parawan ou encore Rob, le claviériste de Phoenix. Voilà, comme vous l'avez entendu, on est quand même sur quelque chose, déjà, je trouve, d'un peu plus pop électro, plus sombre, et je trouve moins formaté pour les radios.
Oui,
enfin, tu vois, on est quand même, c'est une approche plus pointaxe.
Ouais.
Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense en partie que l'album va complètement bider à sa sortie en 2010. Quoi. Ça, je sais que Jérémy Châtelain dans l'interview, il dit vraiment, on a vendu 3 albums et c'est tout quoi. Et tu vois, pour une pop star comme Alizé, évidemment que ça a fait un peu tâche. Mais moi, si j'aime tant ce morceau, c'est pas tellement pour les paroles assez métaphoriques qui m'intéressent pas spécialement, même si je dois reconnaître en fait que je les chante à tue-tête, tu vois, en écoutant le morceau. Non, si j'aime tant ce morceau, c'est essentiellement pour sa production musicale que je trouve très soignée et qui, derrière un peu des airs un peu sirupeux, est rempli, je trouve, est plus profond qu'il n'y paraît. En fait, il y a une sorte de petite noirceur, de petite... de petite ampleur qui m'a agréablement surpris. Je trouve que t'as d'abord évidemment une première couche mélodie drivée par le piano, le synthé, ces petites notes aiguës là qui sonnent un peu comme des petites clochettes. Ça, ajouté à la voix d'Alizé, c'est très sucré. Et puis, je trouve qu'il y a une deuxième couche qui vient se caler, voilà, qui vient se mettre en dessous avec une multitude d'instruments à cordes, mélange de violon et autres déclinaisons qui viennent vraiment apporter en fait une autre texture et une autre dimension au morceau, plus grave et plus épique aussi. Ça, j'avoue que ça m'emporte tout de suite. J'aime énormément du coup la couleur musicale que ce mélange crée. Déjà en plus parce que c'est un morceau d'ouverture, je ne l'ai pas précisé, mais c'est le morceau d'ouverture de l'album. Donc t'es d'emblée projeté dans un univers très marqué, notamment avec ses sonorités, je trouve, quand même très années 80 un peu.
C'est pour ça que ça ne m'étonne pas que Teki l'adore.
Exactement, voilà. Et moi, ça me parle plutôt bien aussi. Il y a quelque chose, je trouve, en plus de très graphique, où t'as l'impression qu'on t'emmène dans un monde féerique et qu'on va te narrer un conte. D'ailleurs, Alizé, à la fin du morceau, même s'arrête de chanter et se met à parler un peu comme une conteuse.
Mais je me suis dit, ça fait très années 80, ça.
Bah ouais, mais tout à fait. Donc, ouais, c'est un procédé, je trouve, d'ailleurs, qu'elle parle comme ça et qu'elle répète plusieurs fois dans l'album. Et ouais, du coup, globalement, je trouve qu'il se dégage sur ce morceau, mais aussi sur l'album, en fait, une sorte de lyrisme qui m'a totalement charmé, vraiment premier degré. Il y a peut-être 3-4 morceaux qui sont un peu plus oubliables, mais pour moi, sinon, franchement, à la réécoute, il y a plein de bonnes choses, et ça pourrait me faire penser, tu vois, à certains moments un peu à du Sébastien Tellier aussi, ouais, tu vois, ouais. dans un genre.
Non, bah, c'est sûr, moi, c'est à ça que ça me fait penser un peu de... Sans connaître grand-chose à la musique française, dans les grandes lignes, j'avoue que là, tu me dis un peu électro-machin, j'avoue, je pense aussi à Sébastien Tellier.
Donc, voilà, big up à Lizzie, franchement, d'avoir pris ce risque-là à l'époque. Alors, bon, tu sens aussi...
C'est quelle année, t'as dit 2008 ?
Ça sort en 2010.
Ah, ok.
Ah ouais. Je crois qu'il commence à... Mais tu vois...
Ah ouais ?
Ouais, ouais. Ouais, c'est...
À une période où c'est pas cette musique qui est à la mode, quoi.
Non, c'est clair. Donc...
Alors, en 2010, c'était l'époque des Black Eyed Peas qui chantaient I Got a Feeling. Donc voilà, pour vous mettre quand même le...
Ouais, ouais, le
parallèle, quoi.
C'est clair. Bah, à mon avis, tu sens un petit peu le côté... je pense qu'Alizée devait être assez curieuse et elle a fait confiance et s'est laissée embarquer par, à mon avis, une multitude de gars qui étaient « Ouais, on va se taper un délire, ça va être charmé. » Et puis...
Ouais, et puis je pense ça doit être intéressant aussi quand t'arrives à ton quatrième album
celui-là.
Et que en effet t'as eu une reconnaissance de ton travail très jeune et très tôt, ou qui a été vachement façonné par les maisons de disques, j'imagine.
Bien sûr, évidemment.
Ça doit être intéressant de pouvoir te dire, en fait, je vais faire exactement ce dont j'ai envie.
Tout à fait. Et c'est, du coup, je trouve que ça, ouais, cet album mérite d'être écouté, encore plus maintenant qu'il est facile d'accès via les plateformes de streaming, parce que ouais, je comprends l'enthousiasme, et en tout cas le se dire tiens, c'est original, encore plus dans le parcours d'une pop star comme l'a été Alizée. Bon, même si je crois que le dernier album qu'elle a dû sortir aujourd'hui maintenant, c'était peut-être 2014, si je dis pas de bêtises. Donc quand même, pour prolonger l'écoute, je vous recommande d'écouter du coup Une Enfant du siècle, particulièrement les morceaux 14 décembre et Factory Girl, en plus de ce que je vous ai fait écouter. Okay. Voilà, ça c'est un peu peut-être mon top 3 de l'album. Je vous recommande quand même, pour la curiosité, parce que je l'ai fait et j'ai trouvé intéressant de réécouter son premier album, du coup Gourmandise, sur lequel elle a explosé. C'est intéressant le sentiment que ça crée des années plus tard. Moi, il y a un mélange de nostalgie et presque même d'un point de vue, c'est étude de cas, sociologique, la musique, comment elle est faite pour marcher. Je me suis amusé, moi. Ouais, voilà, je me suis amusé à le réécouter, on va dire, de cette oreille-là. Et sinon, dans un genre, parce que ouais, ça m'a fait un peu penser à ça, à un autre morceau qui est vraiment un peu dans cette même ADN un peu 80, mais que... dont j'ai énormément d'amour. J'en ai peut-être déjà parlé là, d'ailleurs, c'est pas impossible. Mais c'est le morceau Atlantique Sud de M83. J'ai pas le nom.
Pas souvenir que t'en aies parlé. Ouais.
Je suis pas sûr d'en avoir parlé ici, mais je sais que c'est un morceau que j'ai connu grâce à mon ami Roberto, que je remercie encore une fois pour ça. C'est un morceau extrait de l'album Junk de M83, sorti en 2016. Et voilà, j'aime énormément. C'est très hommage à tout un genre de la chanson française, dans des vibes très années 80 comme ça. Je trouve que il y a deux voix, il y a un homme, une femme qui se répondent. C'est très cheesy, en fait. Ouais. Voilà, parce que je trouve qu'il peut y avoir ça dans le morceau que je vous ai fait écouter. Mais je sais pas, moi j'y prends beaucoup de plaisir à écouter ça. Donc je vous le conseille vivement.
Très bien.
Super, et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour d'Alizée. Oui. On peut passer au son d'après.
Bon, alors pour le prochain artiste, moi j'allais vous raconter une super histoire un peu fun d'une ride en taxi qui me fait ramener le son du jour, sauf que j'ai appris qu'un des artistes dont je vais parler aujourd'hui est décédé très brutalement l'an passé. Donc la légèreté avec laquelle j'abordais cette chronique a un peu switché.
C'est du plomb dans l'aile. Ouais.
Voilà, mais je vais quand même vous raconter mon histoire mignonne et toute la découverte qu'elle a amenée. En fait, ça fait plusieurs fois ces dernières semaines que la vie m'envoie des signaux sur le fait qu'il faut que j'écoute du compas. Et notamment, la meilleure histoire, c'est celle de mon retour en taxi la semaine dernière. Je sors du travail à 5h du matin. Et du coup, il n'y a pas encore de transport en commun, donc je commande un taxi pour rentrer chez moi. Je vous pose le contexte, moi je suis éclatée de fatigue, j'ai qu'une seule envie, c'est de dormir sur place tellement je n'en peux plus. Mon taxi arrive, j'entre, et il me demande si ça me dérange pas qu'il écoute sa musique. Bah, pas du tout, au contraire, moi ça me change des mecs qui changent de station quand je rentre pour me mettre genre chante France alors qu'ils écoutaient Skyrock et que ça m'allait très bien. Et en l'occurrence, je vois mon cher chauffeur est sur SoundCloud et je lui demande qu'est-ce qu'on écoute du coup. Et il me dit du compas. Parfait, je réponds. Je connais deux noms mais je serais ravie d'en découvrir plus. Il en faut pas plus pour qu'il me mette le son à pleine balle dans la voiture. Tellement à pleine balle que j'ai remis mes bouchons d'oreilles. Il avait l'air tellement de kiffer de me faire écouter que j'ai pas voulu le contrarier sur la hauteur des décibels dans un si petit espace. Donc, je me remets mes petites boules caisses et je le voyais en train de tapoter sur son volant, de bouger les épaules et je l'ai adoré. J'avais envie de décéder de fatigue et à la fois j'étais ravie d'être tombée sur ce monsieur. Et bref, on a le temps d'écouter quelques morceaux, notamment jusqu'à ce que celui que je vais vous jouer arrive. Dès la première écoute, je sais que je ne vais pas l'écouter qu'une seule fois dans ma vie. Il y a un mec qui chante une reprise de Bruno Mars, avec une voix de surlover, un synthé bien agressif qui pourrait être utilisé pour faire de l'EDM version Skrillex 2004, mais qui fait une mélodie de compas que j'adore, tout simplement. Et je crois qu'on a bien le temps de l'écouter deux ou trois fois pendant le trajet, parce qu'il le remet, parce que je lui demande c'est quoi. Du coup, il a compris que j'aimais bien, du coup, il la remet une troisième fois. J'ai besoin de savoir, alors il me dit avec joie. Le titre, c'est donc une cover de Talking to the Moon de Bruno Mars, version compas, signée par Mika Ben et Pasca. On écoute et je vous en parle un peu plus après. J'ai hâte d'avoir la vidéo. Talking to the moon. I really been thinking about you lately. Girl, you know you drive me crazy. I want your body close to mine. Please, baby, give me a sign. So, ooh, pas qu'un contrôle souvent, baby. Ooh, contrôler tout l'esprit semblait fou. Cause I sit by myself every night, every remixé version compas par Mika Ben et Pasca. Je me tourne vers Clément. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Je suis ravie d'avoir ramené ce morceau, je suis si heureuse.
Oui, ça se sent en tout cas dans ta voix.
C'est la première fois que t'entends du compas déjà ?
Probablement. Je saurais pas être... En fait, je saurais pas te dire parce que ça a été une écoute assez bizarre en fait, c'est assez chelou. J'ai l'impression d'entendre en fait plein d'éléments musicaux très différents qu'on aurait mis dans un blinder, tu vois, et sans forcément, tu vois, sans forcément qu'on check trop longtemps pour pas qu'il y ait de morceaux. Tu vois, là, je trouve qu'il y a des bons morceaux qui sont bien identifiables.
Oui.
Et du coup, voilà, j'entends une manière de chanter très R&B, j'entends une rythmique un peu zouk, j'entends des sonorités quasi UDM, assez chelou.
Le synthé, ouais.
Ouais, c'est étrange.
Il y a le mec qui rappe.
Exactement. Donc, tu vois, c'est pour ça que je suis même pas capable de dire si j'ai entendu du compas, parce que je saurais même pas d'ailleurs définir ce que c'est que le compas, là, en entendant ça. Tu vois, ça. J'ai plus l'impression d'entendre un shaker. Mais en fait, plus le morceau avance, plus je me suis laissé prendre au jeu, vraiment. Et d'où, et c'est pas forcément un truc que je dirais souvent, mais tu vois, d'où je trouve. D'où l'intérêt que le morceau soit un peu long. Je sais pas le temps exact, mais.
Il dure à peu près 5 minutes, je
crois. Ouais, c'est ça. Et ben. Je pense que sa longueur fait que ça a permis d'apprivoiser et de me laisser petit à petit prendre par le morceau.
Exactement ce qui s'est passé le soir même dans mon taxi. Puisque, bon, la voix du début, peut faire un peu peur quand on n'est pas trop dans la lover vibe tout de suite, parce que
ça m'a fait peur, je suis d'accord.
Voilà, ça peut être un peu effrayant si c'est pas des trucs que t'écoutes tous les jours. Et surtout, c'est un espèce de truc. En fait, c'est à la base, c'est un a cappella qu'un mec a fait sur TikTok, donc Pasca a fait sur TikTok, et en gros que Mika Ben a repris pour derrière. Je pense que c'est Pasca qui doit chanter sur la première partie, puis après il y a Mika Ben qui chante. Enfin bon, okay. Et c'est lui qui est à la prod. Et ouais, pareil, moi, la voix du début, j'étais en mode je sais pas si ça va être bien ça. Et puis donc, je rappelle mon état mental de fatigue intense où j'étais là, mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter. Et après, le synthé arrive. Et donc, je disais tout à l'heure, j'ai dit Skrillex 2004, je voulais dire 2014 parce que Skrillex en 2004, je sais pas ce qu'il faisait, mais il faisait pas encore de musique.
Un peu jeune.
Voilà. Et personnellement, ouais, c'est le synthé qui arrive et qui me fait vraiment quelque chose. La manière rythmique de poser la mélo. Est tellement efficace avec la rythmique derrière du compas. Alors, j'en parlais en off avec Clément, mais alors, moi je suis pas musicienne, donc les changements de rythmique entre le zouk, le compas et les différentes musiques caribéennes,
ouais, c'est technique.
C'est trop technique pour moi. Mais en effet, voilà, il y a ce truc un peu qui te donne envie de bouger les épaules. Enfin, vraiment, mon chauffeur dans la voiture, c'était ça, c'est tu tapotes ton volant et tu bouges les épaules et t'es à donf. Et ce synthé. C'est j'aurais pas pensé dire ça un jour parce que vraiment je trouve que tu vois genre si par exemple moi quand j'ouvre Ableton et que j'entends un synthé comme ça je suis en mode je sais pas quoi en foutre et là il a pris tout son sens genre et avec le recul et quelques
instantanément
et ben ouais
ah ouais bah bravo parce que moi je sais qu'au début je fais waouh mais c'est quoi c'est
mais
2DM
oui. Mais sauf que en fait comme ça dure un peu longtemps mm-hmm. et que t'as le gars qui rappe un peu dessus et tout tu te dis mais oui et au fur et à mesure en mode ben bien sûr.
Évidemment.
Mais évidemment, pourquoi personne n'y avait pensé ? Mais en fait, ils y avaient pensé, juste je savais pas que ça existait. Et du coup, quelques heures plus tard, avec mon sommeil, je capte que pourquoi le chauffeur a mis ça à pleine balle ? Parce qu'en fait, t'as envie d'être immergé dans ce son et d'être en mode ok, je suis vraiment à donf dans
ça, je suis, ouais.
Toute la.
Ça, c'est vrai, parce que par contre, t'as pas envie d'écouter ça en fond léger. Tu vois, t'as besoin de l'entendre vraiment, soit.
Ouais.
Ou pas, je pense.
Et alors, du coup, je disais, le chauffeur était sur SoundCloud, et en effet, le morceau est dispo que sur SoundCloud, parce que c'est une reprise. 160 000 écoutes sur SoundCloud, quand même. Donc, okay. Je pense qu'il y a une communauté compas réunie sur SoundCloud que je ne connaissais pas. Et bon, alors bien sûr, en préparant cette chronique, comme à mon habitude, après une heure de recherche, j'avais envie de vous faire une thèse sur le sujet du compas. Voilà. Alors, c'est toujours incroyablement satisfaisant, en fait, d'aller découvrir une musique, son histoire, quand tu l'as jamais trop entendue ou diguée. Et pour ça, je suis reconnaissante d'avoir le son d'après. Alors, je vais essayer de vous faire une brève histoire du compas, pour les gens que ça intéresse. Vous pouvez aller regarder une courte vidéo de The Pan-Africanist sur YouTube, je vous mettrai dans les notes de ce podcast, qui raconte un peu l'histoire du genre, avec plein de références de groupes et d'artistes à aller écouter. Moi, j'ai trouvé ça trop bien, et j'ai ajouté plein d'albums à ma playlist, mais je ne suis pas en mesure de faire ça aujourd'hui. Alors, le compas, pour la faire brièvement. C'est une musique particulièrement populaire en Haïti, puisqu'elle a été créée là-bas. Elle est née au milieu des années 50, au croisement des musiques traditionnelles de l'époque, le Gren Siwel, je ne sais pas si je prononce correctement, et des influences musicales qui venaient d'autres pays des Caraïbes, notamment du pays voisin, la République dominicaine, avec le merengue. La personne qui est considérée comme inventeur du compas, c'est un musicien qui s'appelle Nemours Jean-Baptiste. À l'époque, il appelle ça le compas direct. Au départ, c'est vraiment un genre d'orchestre, quoi. C'est une musique qui se joue en orchestre avec plusieurs instruments avant, des congas, des percus, une basse. Et ça devient, ça a beaucoup évolué depuis, comme vous avez pu l'entendre. Et ça devient très vite un genre musical qui est écouté partout à Haïti, par toutes les générations. Et dans les années 70, avec la venue d'influences plus rock, la guitare électrique notamment qui s'invite dans le genre, ça permet de s'exporter ailleurs, dans les Caraïbes notamment. Alors, sauf que dans les années 80, débarque le zouk, avec la naissance de Kassav en Guadeloupe, qui fait un raz-de-marée sur son passage, et du coup, petite perte d'audience pour le compas. Mais dans les années 90, il y a un renouveau qu'on appelle le compas digital, avec des groupes comme Top Vice ou Tabou Combo, qui amènent des boîtes à rythme, des synthétiseurs, dans le genre de celui qu'on vient d'entendre. Et c'est là qu'arrive, du coup, voilà, mon merveilleux synthétiseur que j'adore, qu'on a entendu dans l'extrait voilà, de Mika Ben et Pasca. Il y a encore d'autres évolutions du compas depuis les dernières décennies. Un peu à la manière du zouk, en fait, il y a du compas dit love, qui se développe dans les années 2000, parfois chantée en français au lieu de en créole haïtien comme à la base, comme initialement. Puis aujourd'hui, il y a des artistes qui reviennent aux sources ou au contraire qui mélangent le compas à d'autres genres, à l'afrobeat, etc. pour créer une nouveauté et continuer de faire de cette musique une musique intergénérationnelle. Voilà, c'était Percastor.
Non mais c'est je me mets à ta place tu sais de cette boulimie de quand tu commences
mais
à découvrir
72 toi t'as 78 onglets ouverts c'est passionnant.
Et ça prend du temps du coup, ça, de faire ces chroniques.
Exactement. Mais donc comme toujours moi je trouve ça passionnant voilà les évolutions des genres musicaux et surtout que ceux que je connais vraiment très peu ou très mal ça me donne vraiment envie d'ouvrir tout internet et d'écouter chaque référence chaque album etc. Et du coup pour finir ma chronique quand même je voudrais dire un mot sur les artistes du titre qu'on a écouté donc c'est Mika Ben et Paska. C'est vraiment deux générations différentes qui collaborent ensemble sur ce morceau. Je vous l'ai dit c'est notamment grâce à TikTok où Paska fait un a cappella et après Mika Ben fait mais en fait on va en faire un morceau. Je vous disais en intro dans mes recherches j'ai tapé Mika Ben et malheureusement j'ai été un peu plombée parce qu'il est décédé l'année passée et il a succombé d'une crise cardiaque en plein concert à Bercy donc hardcore issime et il était invité à jouer avec le groupe Karimi qui est un des plus gros groupes haïtiens à l'international qui se reformait pour la première fois depuis 2016. Wow. Donc il joue devant 10 000 personnes et malheureusement du coup il est décédé d'une crise cardiaque à 41 ans donc moi j'avoue que j'ai souvenir de cet événement qui a eu lieu mais je savais pas qui c'était du coup j'étais un peu sad de découvrir que c'était cet artiste qui vient de faire le morceau que je viens de découvrir et qui est vraiment super. Voilà, donc j'étais un peu en mode bon, bah ça m'a un peu plombé. Mais en tout cas, c'est un artiste qui est très reconnu. Exactement, R.I.P. Mais c'est un artiste qui était très reconnu, multi-instrumentiste, chanteur, compositeur. Il a sorti en tout 4 albums. Et du coup, l'autre artiste sur ce morceau, c'est Paska, qui est un artiste plus jeune, qui a la vingtaine, je pense, qui vient de Haïti aussi, et qui lui a pas encore sorti d'album, mais qui sort de la musique depuis 5 ans. Il y a plein de singles, et sur son compte SoundCloud, et sur les plateformes. Et pour prolonger l'écoute, je voudrais ouvrir un peu, du coup, parce que comme j'avais 78 onglets ouverts, je me suis dit... Je vais en profiter pour faire un peu plus d'exploration, quoi. Donc, si vous voulez aller explorer du compas, je vous conseille d'aller écouter l'EP Haïti, mon pays, Miami, mon ami de Top Vice, qui est sorti en 93, donc qui est vraiment une des références du compas digital dont je parlais tout à l'heure. Et je voudrais faire un shout-out à mon pote Cédric, qui m'a envoyé plusieurs sons de compas, parce que je lui ai dit « Je suis tombée dans la marmite !» Il m'a dit « Voici d'autres morceaux !» Donc du coup, je lui dois... En fait, finalement, ces recos sont les siennes. Le titre « Fontaine Gouillade » de DJ Ralph Bébé, DJ Ino et Mackenzie. Ça sera dans les notes du podcast.
À vos soeurs, voilà, exactement. Voilà.
Et aussi, il y a l'artiste R. Didi qui fait une série de singles qui s'appelle les Magic Gouillades. Et je vous conseille notamment le numéro 3 parce qu'il est son numéroté de 1 à 6 ou 7, je crois. Voilà. Donc, c'était ma petite excursion du côté de Haïti et du compas. Et j'ai trouvé ça super. Et je vais continuer à m'informer sur ce genre musical qui a l'air infini. Voilà.
Ça, c'est sûr qu'à mon avis, c'est comme... Ouais. Il y a des choses encore à découvrir.
Ah, de fou. Ah ouais, de fou. Et encore, tu vois, genre là, dans les références vraiment des années 90, j'ai même pas effleuré tout ce qui s'est fait, quoi. Bien donc, sûr. J'ai trop hâte.
C'est pas possible. Mais je te comprends. Moi, je sais qu'on en a parlé un petit peu hors antenne, ouais. Mais moi, j'ai commencé à me plonger après le reggae. Là aussi, je suis en train d'explorer un peu le zouk. Et waouh, c'est pareil, c'est infini. Là, pour l'instant, je me mets même pas de pression. C'est vraiment, je prends ce qui vient et comme ça vient. Et déjà, parce que c'est... Il y a beaucoup, quoi.
Ouais,
c'est
bien
des
sûr.
Scènes, je pense, qui ont vraiment... Dont nous, en France, à part, je pense, quand tu vis dans une communauté, justement, caribéenne ou quoi,
ouais.
T'es très peu confronté à ce genre de musique, quoi.
Ouais.
Enfin, amené
amené à en écouter, mais justement,
exactement.
Heureusement,
on est
là et nous on adore écouter tout ça, donc c'est trop bien. Voilà, on peut passer en son après.
Et bah écoutez, pour terminer, je pouvais difficilement faire plus opposé que Alizé. Et pourtant, vous allez voir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un binôme producteur-rappeur du nom de Butter Bullets, composé de Della à la prod et de CD Seed au rap. Honnêtement, pas facile de parler d'eux parce que j'ai bien conscience de ramener des artistes à la proposition qu'on peut considérer comme underground, mais surtout ultra clivante. Un peu comme Alizé, point d'interrogation. Mais j'ai envie de parler d'eux parce que c'est un groupe que j'écoute déjà depuis un moment. déjà, et qu'ils ont sorti cette année un nouvel album qui est vraiment un très 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 bon album de rap.
Okay.
Butter Bullets, ils se rencontrent à Besançon et sortent leur premier projet en 2006. Par la suite, on les voit rapidement être en fait affiliés à la scène rap alternative électro de l'époque, genre TTC en tête. Hein. Et ils sortent une mixtape en 2009 où on retrouve parmi les invités Tequila Tex ou encore Bob Mo d'Institube. Est-ce que vous commencez à voir un petit peu des petits parallèles à Camisa,
là, voilà. Je vois bien.
Par la suite, on les voit fitter avec surtout Al Capote, association qui sera assez fructueuse. On retrouvera Al Capote sur leurs deux premiers albums et ce qui laissera fantasmer un projet commun qui finira par voir le jour en 2016 du nom de Ténébreuse Musique. Bon, déjà, après ce que je viens de vous dire, pour ceux qui ont
déjà, j'ai peur,
un peu les références, vous devez bien imaginer qu'on est là sur de la musique assez sombre, au parti pris assez radical, noir comme mercredi, comme annonce Cidicide dans leur nouvel album, dont je vous propose qu'on écoute un extrait. Le morceau s'appelle Le Change. Je vous préviens, ça peut surprendre.
J'ai le numéro des bitches. J'aime quand elle m'appelle mon chéri. C'est pas du rap de ghost et riche. Nique sa mère Roméo Elvis. Sur le gâteau, je suis la cerise. Je m'arrêterai quand je serai assez riche. Faut bien viser sur le shérif. Pas écouter ces gros débiles et éviter les projectiles. Si d'ici c'est la prophétie. Les autres, franchement, c'est pas terrible. Ça fait un bail que je suis dans ce truc. Si tu me crois pas, t'es mal et ride. Ça c'est terrible, j'aime que l'hiver et les grosses teams. Tout dit qu'à killer vers hostile. Toujours capuché, même au style. Toujours muet, surtout au stup. Rien ne change à part le change. Rien ne change à part le change. Rien ne change à part le change. Et le seul message, c'est qu'il n'y a pas de message. Rien ne change à part le change. Rien ne change à part le change. Rien ne change à part le change. Et le seul message, c'est qu'il n'y a pas de message. Gros, je m'en bats les couilles de tout.
C'était Butter Bullets avec le morceau Le Change, extrait de leur album Jazz, sorti cette année. Je me tourne vers ma binôme préférée. Je suis très curieux de savoir qu'est-ce que tu en as pensé.
Eh ben, je m'attendais à pire.
Ouais.
Donc,
les
ça
références,
va.
Ouais.
Bah ouais, c'est ça. Je m'attendais à que ça soit vraiment chelou et en fait, bah, ça va. Ouais, c'est dark. Je sais pas si j'écouterais ça au quotidien.
Ouais.
Parce que en effet, c'est pas forcément
c'est
mon
mood,
genre. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément mon genre de rap. Bref, en fait, j'ai un peu de mal avec sa voix.
Je peux.
Donc,
oui, je pense que c'est une barrière de péage.
Tu sais à qui ça me fait penser, mais alors c'est pas du tout la même voix. Donc, comment il s'appelle le gars? Je le déteste.
c'est bien.
Un gars avec un masque là. Fuzzati.
Exactement, Fuzzati. Tu peux me redire le nom de son groupe?
Club des losers.
Club des losers. Merci.
Oui, Berk.
Ouais, bah je peux. Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre.
Voilà. En fait, je sais pas si c'est dans la voix ou dans la manière de délivrer ou j'en sais rien, mais il y a un peu ce truc. Ou alors c'est dans mes souvenirs.
Mais je pense qu'il y a un lien parce que tu vois, même moi je l'avais pas connecté comme ça. J'ai vraiment beaucoup écouté l'album ces derniers temps. Donc, mais là, en le réécoutant ensemble, moi ça m'a fait penser aussi à du Tequila Tex dans la manière de rapper, certains placements, dans certaines, même dans certaines piques. Tu vois, là on a Tequi est réapparu récemment sur l'album de Chilly Gonzalez.
Oui.
Et tu sais, dans cette manière qu'il a de clasher les autres rappeurs et tout, je trouve que il y a un peu de ça là.
Voilà, juste dans la voix, il pourrait y avoir un truc qui me plaît pas forcément.
Ouais.
Après, moi, très honnêtement, je te le disais en off, mais moi, ce qui m'a arrêté sur Butter Bullets, parce que je l'ai vu passer plusieurs fois, Mehdi en a parlé, Sandra Gomez qui bosse avec lui en a parlé aussi souvent et tout, c'est la pochette avec une meuf juste. Tu sais, genre ce fameux truc un peu genre animé manga avec une meuf avec des gros seins en soutien-gorge, vraiment en mode stop, en fait, est-ce qu'on peut arrêter? Ça me fatigue. Et du coup, comme la pochette me fatigue d'avance,
t'as...
je suis en mode bon, bah, j'ai d'autres choses à écouter.
T'as
pas
eu envie d'écouter.
Voilà.
Okay. Je peux entendre. J'avoue que bah, effectivement, moi, je suis pas très sensible à cet art-là, etc. Donc, je la vois même pas quoi.
Mais j'associe ça à un truc plus large, tu vois, genre dans cet univers-là, animé, manga et tout, où les meufs sont souvent très dénudées et très genre regardez les gros seins et du coup. c'est toujours un truc qui m'énerve un peu. Et du coup,
t'as eu peur un peu que du coup, il puisse y avoir un peu ce type de référence ou de.
Ouais, je sais pas. Enfin, en fait, déjà,
en l'occurrence, il en met une à Romeo Elvis, donc. Pense que...
Ouais, mais tu vois, genre en choix artistique, je comprends pas la logique entre la pochette et la musique. Voilà, c'est surtout ça. Là-dessus,
je te rejoins. Je connais pas, puis après, je connais pas suffisamment bien tous les détails de Butter Bullets pour. Je sais pas à quel point.
Tu vois, genre les autres projets.
Ouais.
Les pochettes ressemblent pas du tout à ça, donc tu vois, c'est bon. Bref, bon.
Après, toi, ça t'arrête en tout cas.
Ça peut être un détail, mais en vérité, je sais que les pochettes,
ça peut te stopper.
Ouais, je connais pas quoi.
En vrai, t'as raison, de toute manière. Je pense qu'on arrive, comme je vous le disais, sur un artiste où il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent vous stopper avant
d'écouter.
Voilà, ouais. Genre la pochette, et puis après, tu parles de voix. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Néanmoins, moi, je viens justement pour vous dire que j'avais justement envie d'en parler parce que, je sais pas, il y a un truc dans leur musique qui me... Il y a ce truc dans ce côté un peu sombre qui me... que j'arrive à écouter, qui me parle, qui doit certainement me permettre aussi peut-être un peu des tu sais, qui doit être un peu libérateur de temps en temps. Donc oui, c'est sûr, c'est sombre, c'est agressif. Là, dans ce morceau, il y a même quelque chose, je trouve, d'assez oppressant, avec cette boucle qui résonne presque comme un cri d'effroi. Des percussions là, qui te bastonnent le tympan, plus une accélération sur le refrain avec le bruit de la machine à billets là, qui compte.
Ouais.
Les rythmiques, en plus, un peu plus jersey. Mais déjà, tu vois, rien qu'en disant tout ça, je trouve qu'il y a la prod, je la trouve assez exceptionnelle. Dans sa construction, derrière il y a la voix effectivement nasillarde de Cilicide qui peut avoir un côté un peu, enfin je trouve qu'il peut avoir, tu sais, quand il rappe, ce côté c'est vraiment le plus méchant quoi, tu vois, et puis la manière dont il tacle les autres rappeurs, je pense que c'est un personnage qu'il faut mettre du temps à mon avis avant de vraiment se prendre un peu d'affection pour ça, comme tu l'as dit, à mon avis ça peut bloquer. Néanmoins, ouais, voilà, tu vois, c'est un certain nombre d'éléments qui peuvent être assez désagréables pour un certain nombre de gens, j'imagine. C'est du rap d'ego trip, du rap de référence. J'avais envie de citer quelques lignes sur le morceau qui s'appelle De Rien dans l'album, il dit « Pénétrer, c'est comme ton rappeur préféré, c'est surcoté. Pour dire un truc pareil, faut être sacrément culotté. Calvin Kleinisé, enfant du siècle, comme Alizé. » Voilà, j'ai trouvé le lien. Je le cite parce que vraiment, c'était même pas fait exprès. J'avais déjà écrit ma chronique sur Alizé quand je me suis vraiment replongé dans Butter Bullets. J'ai réécouté l'album, j'ai écouté ça, j'ai fait waouh.
Ton inconscient avait fait le lien.
J'avoue que ça m'a fait bien rigoler et il n'y a pas de hasard. Mais en vérité, oui, c'est dans ces quelques lignes quelques rimes là que je viens de vous citer, il y a beaucoup du style en fait de Cilicide, de l'ego trip, de la pique aux autres rappeurs, des traits d'esprit un peu décalés, tu vois, des marques et des références un peu inattendues. Manque juste les références un peu de rappeurs un peu pointu old school un peu pointax
pour le... Parce qu'il parle de Wu-Tang et tout.
Oui, oui, dans le morceau que je vous ai fait écouter, mais dans les quelques lignes, tu vois, il manque la référence à un rappeur, un peu pointax pour le commun des mortels, et t'as coché le bingo Cilicide. Oui. C'est marrant parce que moi, je les découvre du coup en plus sur un morceau bizarrement assez ensoleillé, le seul que je leur connais d'ailleurs, sorti en 2010, qui s'appelle Les Larmes du Soleil, avec leur acolyte Ranmo. Ça, c'est des potes en Angleterre qui me le font découvrir à l'époque, et je sais pas pour eux, c'est vraiment une sorte d'hymne. Ils me le chantent, ils me le font découvrir avec, tu sais, une espèce de fierté et de bonhomie de chanter le morceau, alors que t'as déjà un Cilicide qui rappe un peu chelou, mais c'est tout. Je sais pas, en fait, le morceau, il ressemble un peu à une sorte de pastiche d'un tube de l'été, très décalé, et comme je pense qu'on peut le ressentir parfois quand on découvre un peu du TTC. Tu vois, ce truc un peu de c'est chelou quand même, non? Et puis en fait, à force de l'écouter, j'ai vraiment fini par m'attacher au morceau et j'ai fini par creuser un peu. Et j'ai été surpris de découvrir effectivement que le reste de la discographie était beaucoup plus sombre. Et si je me suis jamais tué aux albums, excepté celui que je ramène aujourd'hui et peut-être un peu celui avec Al Capote, il y a toujours quelque chose, je trouve, d'assez fascinant chez eux. Parce que Cilicide, en fait, c'est vraiment une personnalité, je trouve, qui est assez marquante en fait quand tu l'entends. Elle est. Et dans ce que j'ai dit, les références, tout ça, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez ludique entre les références et l'ego trip. Tu vois, du coup, tu as envie d'aller creuser, de savoir de quoi il parle. Et puis, vraiment, il y a les qualités de production de Della qui sont assez folles et même souvent assez précurseurs à l'échelle du rap français. En 2012, ils sortent leur premier album qui s'appelle Peplum, soit un an avant Or Noir de Kaaris, et quand tu réécoutes, c'est déjà une trap bien bresson qui a vraiment rien à envier aux prods de Thérapie. Et si on revient, voilà, si on revient maintenant en 2023, je trouve que c'est vraiment l'une des grandes réussites de l'album, c'est la qualité musicale. CDC, il est fidèle à lui-même. Et quand on aime son style, bah on est pas perdu. Mais d'un point de vue musical, c'est la première fois pour moi vraiment que j'écoute un No Skip album de la part de Butter Bullets. Okay. Et c'est évident que les productions, très peu rap français en fait, ça va plutôt regarder vraiment des États-Unis. Les productions, je les trouve vraiment d'une très très grande qualité. Il y a notamment pas mal de morceaux construits à base de samples de jazz distordus. Je vous conseille d'écouter le morceau d'ouverture et le morceau en featuring avec TEDx Max, qui sont vraiment des grandes réussites. On retrouve aussi l'OVNI sur un excellent morceau. Bref, c'est très compliqué de choisir, vous en doutez. Moi,
sur un autre skip, c'est toujours
compliqué. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas si ce morceau-là sera la meilleure porte d'entrée. Moi, c'est voilà, j'y ai vu pas mal d'éléments et notamment, comme je le répète, mais la qualité de la production qui m'a bien plu. Donc, j'espère que j'aurai réussi à éveiller votre curiosité parce qu'il est fort à parier, moi, que vous retrouviez cet album dans mon top de l'année. Voilà.
Okay.
Donc, pour prolonger l'écoute, je vous recommande le dernier album qui s'appelle Jazz. Je vous recommande la mixtape Ténébreuse Musique. Et si vous voulez écouter aussi un morceau un petit peu, je vous recommande le morceau Motocross.
Très bien.
Voilà, c'est pas mal. Hein.
Et bah, ben ouais, on arrive à la fin de cet épisode là.
On est arrivé au bout de l'épisode, tout à fait.
Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On a fait des grands écarts aujourd'hui.
Ouais, hein, c'est pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui. Où est-ce qu'on est arrivé? Wouh. Oh bah oui. On vous refait pas le petit topo, mais vous savez que vous pouvez, voilà, toutes les infos
sont dans les notes.
Dans les notes du podcast, les morceaux dans la playlist, tout ça, tout ça. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Louise, qu'est-ce qu'on se dit?
À dans deux semaines.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com